Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur nos antennes en direct du Palais des Congrès à Porte-Maillot pour le CIMI édition 2024. J'ai le plaisir d'être avec Clément Courlivan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du pôle logement de Novaxia. Peut-être pour commencer, pouvez-vous présenter Novaxia à nos auditeurs?
Bien sûr. Alors Novaxia, c'est un groupe qui allie épargne et immobilier par l'intermédiaire de deux structures. Une structure qui est une société de gestion qui collecte de l'argent auprès d'investisseurs particuliers.
Oui.
Et Novaxia Développement qui développe des projets immobiliers grâce à l'investissement de Novaxia Investissement, société de gestion.
Oui, donc il y a la récolte d'un côté des fonds et le développement
de l'autre, voilà, auprès de la performance.
Donc forcément, c'est un vaste communicant.
Exactement.
L'une étant
maître d'ouvrage délégué pour l'autre.
Oui, bien sûr. Alors, on va parler ensemble de recyclage urbain. Alors, un thème bien précis qui est à la mode, hein, il faut le dire. On en parle de plus en plus. C'est vrai que recyclage urbain, c'est un terme un peu... Est-ce que vous pouvez expliquer, pareil, à nos auditeurs, ceux qui sont un peu novices, ce que c'est exactement le recyclage urbain?
Alors, le recyclage urbain, c'est un concept qu'on a peut-être préempté chez Novaxia il y a quelques années, qui aujourd'hui est utilisé par tous,
oui,
mais dont le principe est de pouvoir reconstruire la ville sur la ville, limiter le plus possible l'étalement urbain. Chez Novaxia, on ne réalise pas d'opérations sur des sites qui sont des terres agricoles, par exemple.
Ça n'arrive jamais.
Artificialisés. Ça n'arrive pas. On ne répond pas aux consultations lancées par certaines métropoles sur des terres qui sont non artificialisées. Et donc le principe du recyclage urbain, c'est simplement justement de pouvoir transformer des actifs, que ce soit par de la réhabilitation ou par de la démolition reconstruction, sur des actifs existants, 100% artificialisés, de type friche industrielle, immeuble,
oui,
de bureaux obsolètes et vacants. Voilà, c'est principalement sur ces actifs-là que nous intervenons.
Alors c'est vrai que le dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, a pointé le bout de son nez. Et depuis, on en parle beaucoup, hein, de ce recyclage urbain des friches. Quelle est la part justement de la réhabilitation versus celle de la
démolition, reconstruction? Alors, je dirais qu'on est plutôt sur un... Enfin, c'est pas un tabou, mais je pense qu'on est plutôt sur un 80-20. 80 démolitions reconstruction,
d'accord,
20% réhabilitation.
Parce que ça coûte très cher, en fait.
Alors, non seulement l'économie est compliquée, mais aussi on n'est pas sur des... On est sur des immeubles qui ne sont pas conçus,
ouais,
de la même manière,
bien sûr,
qui sont beaucoup plus profonds et des trames beaucoup plus larges sur du bureau, ce qui est moins le cas en logement.
Ouais.
Donc effectivement, la plupart du temps...
On est obligé de démolir.
Exactement, la plupart, ouais, du temps, on est obligé de démolir. Pour autant, ça amène un certain nombre de... Enfin, il faut tirer parti des avantages de tout ça. C'est que la démolition permet, entre autres,
d'artificialiser
et de créer de la pleine terre et,
ouais,
de ramener de la nature en ville. Ce qui n'est pas le cas si on devait uniquement faire de la transformation d'actifs,
oui,
et de la réhabilitation. Puisque chez Novaxia, de la même manière, donc Novaxia Développement travaille pour le compte des fonds que gère Novaxia Investissement. Les fonds étant labellisés ISR, article 9, l'ensemble de nos projets sont alignés à la taxonomie européenne et sont zéro artificialisation nette.
Et alors, quand vous dites que ça permet de ramener de la nature en ville, par exemple, c'est parce que vous mettez un peu de verre dans chacune de vos constructions, c'est ça?
Alors, c'est pas uniquement mettre un peu de verre.
On met du verre.
L'idée étant de désartificialiser, de limiter le plus possible les constructions d'infrastructures avec,
ouais,
les stationnements, et de ramener de la pleine terre.
D'accord. Donc, vous ramenez de la terre, vous perméabilisez le sol, comme on,
exactement,
dit. Hein. Parce que c'est pour nos auditeurs, c'est vrai que quand c'est bétonné, on dit que c'est imperméable.
Exactement.
C'est plus la nature ne passe plus. Là, du coup, vous enlevez la couche, on va dire, de béton et vous remettez de la terre.
Exactement. Aujourd'hui, sur les 95 projets qui sont en cours de développement chez nous, on a permis la renaturation d'un peu plus de 110 000 m².
Et c'est possible à chaque fois de autant, enfin,
en tout cas, c'est un préalable pour,
ouais,
nous, qui est de se dire que l'objectif est de ramener de la nature en ville.
Ouais.
Et surtout pas d'en retirer. Donc, c'est pour ça qu'on part d'actifs qui sont... 100% artificialisé pour la plupart du temps.
Combien de temps ça prend pour un projet quand vous avez identifié le lieu? Après, j'imagine que ça dépend du projet, hein, mais est-ce qu'il y a une moyenne? Est-ce qu'il y a une moyenne?
Alors, on peut faire une moyenne qui est autour de 5-6 ans pour un,
ouais,
projet. je dirais, 2 ans qui permet de travailler sur les autorisations administratives. Entre 18 à 24 mois si on fait une moyenne entre le dépôt, les obtentions, les périodes de recours éventuelles, et ensuite une période de 24 à 30 mois sur la construction, donc on va dire 5 à 6 ans en fonction des problématiques qu'on peut rencontrer dans notre métier.
Mmh. Et après, quels sont les types de logements du coup que vous proposez ?
Alors, on propose tout type de logement. On propose des logements en accession, on fait du démembrement.
Ouais.
On fait beaucoup de build to rent, ce qu'on appelle des logements prêts à louer avec service. Donc, on a des opérations mixtes où on a aussi de l'activité du logement.
Donc, c'est assez mixte au final. Hein.
Exactement. On a effectivement une proposition, en tout cas, de produits qui est effectivement assez diversifiée. Pour répondre justement à cette pénurie de logements et pour répondre justement à cette période à cette conjoncture de crise en ce moment où on a effectivement des ménages qui ont de plus en plus de mal à se loger, qui se tournent vers le locatif et
le marché de la location est bloqué.
Exactement, le marché de la location est bloqué et de la même manière on a un deuxième facteur qui a émergé post-Covid où on a beaucoup de ménages qui ont quitté les grandes métropoles, qui ont quitté l'Île-de-France et qui...
Alors certains reviennent un peu. Hein,
alors effectivement, mais
il y en
cas,
a qui reviennent.
En tout cas, on a un certain nombre de ménages qui ont besoin d'être à Paris parfois pour 2 à 3 jours par semaine et qui soit ne savent pas comment se loger ou soit profitent d'amis, de famille. Et l'avantage du prêt-à-louer, c'est qu'on peut louer à la nuitée. Et donc, ça permet aussi de répondre à ce besoin-là. Et ça évite qu'une personne qui a besoin de 2 nuits à Paris par semaine loue un logement au mois pour ne pas y être 70% du temps.
Et du coup, quand c'est du build to rent, vous gardez la gestion ou
Alors, pour le moment, non. On fait appel à des acteurs
qui
sont investisseurs exploitants ou investisseurs et exploitants. On arrive à allier justement l'intervention de différents institutionnels sur la question.
Et quand vous dites pour le moment non, c'est peut-être une ambition pour l'avenir
Chez Novaxia, on cherche toujours
à se réinventer,
à profiter des moments de brouillard pour en faire des opportunités. Donc peut-être que ce sera un sujet sur lequel
c'est intéressant,
on arrivera à un moment donné.
Et c'est vrai que c'est une grosse demande, hein, ces logements clés en main pour les collaborateurs, enfin les cadres supérieurs, comme vous dites, hein, qui se sont un peu éloignés des métropoles et qui reviennent 2-3 jours par semaine, qui ont besoin d'un logement déjà clé en main. Hein.
Clé en main avec service.
Avec service. C'est quoi les services qui sont demandés, que vous constatez la demande de services, c'est quoi?
Alors, la plupart du temps, puisqu'en fait c'est pareil, il y a un certain nombre de modèles qui émergent, mais en tout cas, ce qu'on retrouve, c'est de la restauration.
Oui.
L'ensemble des services, d'ailleurs, pour la parenthèse, sont aussi ouverts sur la ville, sont ouverts aux riverains qui habitent à proximité.
Ah oui, d'accord.
Mais donc, il y a de la restauration, il y a de la salle de sport, parfois une piscine, par exemple, une salle de cinéma.
Donc c'est des services assez haut de gamme.
Exactement, tout à fait. C'est effectivement des résidences dont le loyer est un peu plus cher que dans le marché classique, mais aussi parce qu'il y a ce principe de service et aussi parce qu'il n'y a pas d'engagement sur la durée. Encore une fois, comme je le rappelais tout à l'heure, on peut réserver un appartement pour la nuitée, pour y rester 2-3 jours par semaine ou pour y rester sur une période de stage, par exemple, pour des jeunes actifs.
Alors c'est vrai que on va reparler de la transformation de bureaux en logement. Même si ça reste une niche au final, hein, vous l'avez dit, c'est 20% de vos projets. Donc
sur la réhabilitation, oui.
Oui, sur la réhabilitation.
Mais sur l'intervention, je dirais qu'on a 80% de nos dossiers qui sont d'ex-bureaux.
Mais du coup, il y a une démolition, en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais vraiment sur la réhabilitation, donc sans démolition, c'est vrai que c'était le gouvernement, alors je crois que c'était le gouvernement Attal qui en avait beaucoup parlé, qui avait commencé à en parler, en tout cas ouvertement. C'était un des points de la politique du gouvernement à l'époque. Bon, c'est vrai qu'on a changé 2 fois de gouvernement depuis, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que, on comprend que les politiques, en tout cas, commencent à miser dessus pour répondre à cette crise du logement. Comment est-ce que vous avez un exemple justement d'un projet où vous avez réhabilité donc sans démolir et que vous avez donc récupéré des bureaux pour en faire des logements?
Alors oui, on a un projet effectivement dans le 20e arrondissement de Paris, qui est un ancien immeuble de bureaux qu'on a conservé, qu'on a surélevé, qui a permis la création d'une cinquantaine de logements, je crois. Mais même dès le départ, quand Novaxia s'est créé en 2006, la première opération était à Strasbourg sur la transformation d'un immeuble de bureaux en logement. Et donc, on a, sur ces cas de figure-là, des expériences réussies de transformation de bureau en logement parce que les actifs le permettaient, parce que on est sur deux villes où on a des immeubles qui sont de faible profondeur.
D'accord.
Et où justement la création de trémies pour accéder au logement par ascenseur, etc., a pu être réalisée, ce qui est moins le cas sur des gros immeubles de bureaux.
Donc c'est quoi en fait les conditions pour justement rendre possible ce genre de chantier? C'est, vous l'avez dit, donc là ça...
C'est vraiment la particularité, la forme du bâtiment, les hauteurs sur plafond. Est-ce qu'on peut venir y créer par exemple des balcons? Il y a un certain nombre de conditions, alors, qui vont être délicates à décrire, mais en tout cas qui sont plutôt au cas par cas. Et en tout cas, avant de lancer la démolition d'un immeuble, on s'assure que la transformation n'est pas possible.
Oui, d'accord.
On fait intervenir.
Vous avez des équipes, j'imagine, des architectes.
Effectivement, des architectes, mais aussi des équipes techniques en interne avec des bureaux d'études pour définir est-ce que, oui ou non, on peut le transformer plutôt que le démolir. C'est l'objectif premier.
Et alors, quand vos équipes techniques actent une démolition, est-ce que vous conservez certains matériaux de la démolition? Est-ce qu'il y a justement un vrai recyclage, on va dire?
Alors, effectivement, on fait du réemploi sur l'ensemble des matériaux issus de la démolition. Mais même si on démolit un immeuble, on peut aussi être ramené à conserver une partie de l'infrastructure existante pour aussi éviter d'avoir à démolir l'infrastructure, à faire venir des camions pour agrandir les parkings, etc. Donc, et aussi, comme je disais tout à l'heure, pour répondre à cet enjeu de ZAN. Mmh.
Alors, actuellement, vous avez combien de projets en cours
On a 95 projets en cours, un peu moins de 100, ce qui correspond à un peu moins de 25 000 logements en cours de production sur les 6 années à venir.
Ouais.
On continue le développement d'ailleurs.
Où ça d'ailleurs, ces logements?
Ces logements, ils sont répartis sur toute la France. On intervient sur tout le territoire national, y compris sur des opérations au Portugal et à Luxembourg.
D'accord.
Mais la plupart des dossiers, je dirais que 98% sont en France, 80% en Île-de-France, le reste en région, sur des métropoles type Lyon, Toulouse, Nantes. On a des interventions aussi à La Rochelle.
D'accord, oui. Donc c'est assez vaste en termes au niveau géographique. Pourquoi le Portugal et le Luxembourg
Alors, on intervient par opportunité sur des actifs où on sent qu'il y a non seulement, que le recyclage urbain a du sens, qu'il y a également la performance financière, extra-financière pour nos investisseurs. Et donc, sur des sujets comme ça, peut-être plus éparses, on a eu l'occasion d'y aller et on continue d'aller d'ailleurs sur...
D'accord, donc vous avez des équipes qui vont dans les pays voisins, en Europe, pour,
qui font
pour sourcer en fait, un petit peu les projets, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Et tous les pays européens ou
Alors, plutôt ceux qui sont à proximité de la France.
Frontaliers, du coup.
Exactement.
Enfin, Portugal, c'est pas frontalier, mais on est pas loin, quoi.
Presque, effectivement. Et de la même manière, par l'intérieur de la SCPI, qui, elle, fait plutôt du rendement, on a aussi des actifs en Europe, effectivement.
Oui, parce que c'est intéressant d'avoir des actifs dans d'autres pays, c'est vrai, à travers une SCPI. Et pour finir, alors, 2025, quels sont vos projets, vos ambitions? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Est-ce que vous pouvez nous annoncer, alors, peut-être de la gestion?
Alors, un peu tôt pour annoncer de la gestion. En tout cas, 2024, conjoncture chahutée, on le voit, à la fois pour nos confrères, mais aussi pour nous, et d'autant plus dans un marché où nous, on a la double casquette épargne immobilier, compliqué. 2025, on va poursuivre sur l'embarqué qu'on a pour justement tenir la performance pour nos investisseurs, performance financière et extra-financière.
C'est quoi la performance que vous avez faite en 2024 là?
Alors, la performance, elle est diverse pour les
en
fonds.
En fonction des... Oui.
Sur la STPI, on devrait atteindre un taux d'un peu plus de 6%.
Hors frais
Alors, on est à 6% effectivement hors frais, si je ne dis pas de bêtises. Après, je ne travaille pas pour la société de gestion. Donc,
d'accord.
ce sera à vérifier avec mes collègues du sujet. Et l'objectif étant d'atteindre également entre 5 et 6% pour les deux autres fonds de la gamme Focus, même si les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.
Et juste, on parlait des SCPI, la récolte, c'est vrai que les SCPI, bon, elles ont connu une très très belle année en 2022. Et c'est vrai que c'est plus compliqué depuis. Est-ce que, qu'en est-il chez vous en fait? Est-ce que ça, en 2024, est-ce que vous avez quand même réussi à récolter correctement?
Alors, on a collecté en 2024, correctement, pas vraiment.
Pour oui, autant, comme tout le monde.
Comme tout le monde, ouais. Effectivement, on n'échappe pas au secteur. Pour autant, on cherche à faire du développement par l'intermédiaire de d'autres sujets, en parallèle de la collecte, à savoir du club deal, ou plutôt que de collecter sur des véhicules, on va plutôt aller collecter de l'argent directement pour développer un projet. Ce qui permet aussi de rassurer les investisseurs qui voient directement sur quoi ils investissent leur argent.
Et maintenant que c'est vrai que c'est un peu plus, enfin, est-ce que vous sentez une appétence qui est de retour de la part des particuliers, des investisseurs particuliers ou
Alors on aurait pu sentir cette année un retour compte tenu de la diminution des taux.
Ouais.
Aujourd'hui,
une diminution des taux qui aura encore lieu cet après-midi d'ailleurs.
Alors effectivement, pour autant, aujourd'hui on a toujours des taux qui sont autour de 4% sur des comptes à terme, sans risque. Quand chez nous on propose plutôt un rendement qui est autour de 5 à 6% avec du risque évidemment, puisqu'on est sur
Bien
des
sûr.
Projets, il peut se passer un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui on ne voit pas encore de retour sur ce sujet. Mais en tout cas on voit le retour sur du format différent, à savoir le club deal que j'expliquais à l'instant.
Donc il y a quand même un élan,
un
retour tout doux des investisseurs sur certains types de produits.
Exactement, investisseurs particuliers.
Pour terminer, le CIMI, donc c'est vraiment c'est l'événement annuel. Quelles étaient vos attentes pour cette QV 2024?
Alors les attentes pour la QV 2024, déjà c'était de profiter de ça pour rencontrer les professionnels de l'immobilier, continuer en tout cas à maintenir la relation qu'on a, profiter de ce salon pour finaliser certaines transactions, entre autres certains projets. C'est plutôt réussi.
C'est vrai, vous êtes satisfait de ces 3 jours. Vous avez un joli stand, Néa.
Merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Clément Courlivan, pour cette interview. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour une toute nouvelle émission sur nos antennes en direct du CIMI. À très vite.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâtisanté, Salvia Développement, Solare IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Yeah.